Bonjour Thibaut Voyard.
La Confédération paysanne dont vous êtes membre a réalisé un barrage filtrant jeudi dernier aux Alleux pour alerter la population et les élus de Brissac-Loire-Aubance sur un projet de méga-bassine dans le village. Une action sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui et qui va nous permettre d'aborder le sujet de ces méga-bassines et de la gestion de l'eau dans le monde agricole. Alors avant toute chose, on va aborder le sujet de cette mobilisation. Pourquoi ce projet pose problème ?
C'est un contournement en fait du cadre juridique. Dans le sens où les exploitations du style sablière, donc qui travaillent des groupes qui font du béton comme la société GSM, qui est une société allemande, qui est un peu l'équivalent de Lafarge en Allemagne, avec toutes les questions qu'on peut se poser sur le béton, c'est en fait, ils ont des terres agricoles, la loi française les empêche de les exploiter sans qu'il y ait des formes de compensation derrière. Donc, ils sont censés pouvoir remettre des terres agricoles en usage. Donc, ils extraient du sable pendant des années sur une zone, et après, quand l'exploitation du sable n'est plus possible, ils prétendent pouvoir la remettre en état agricole, donc en mettant du remblai, mise en jachère dans l'espoir que ce soit à nouveau cultivable. Sauf que dans les faits, ça ne l'est pas, parce que on ne remet pas la terre. La terre qui a servi un espace qui a servi d'extraction de sable pendant une vingtaine d'années, il ne faut pas 3 ans pour en refaire de la terre agricole structurée et capable de supporter des cultures, des passages d'outils, etc. Donc, en l'état, la terre agricole qu'ils proposent, elle ne vaut rien. Il n'y a pas de projet agricole qui peuvent se mettre réellement dessus. S'il y aurait une vraie compensation agricole, il faudrait déjà qu'elle soit concertée avec les agriculteurs du coin et avec les pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, pour entrer dans leur cadre légal, ce qu'ils font, c'est que il y a une partie de la carrière qui cesse d'être exploitée, qui est transformée en réserve d'eau avec captation d'eau dans les nappes, donc des pompages d'eau hivernaux pour un stockage d'eau et utilisation l'été. Ces terres-là sont, comme elles sont à usage agricole, passeraient en terre agricole d'un point de vue juridique, ce qui est un contournement et une torsion du droit tout à fait... questionnable et souvent en plus borderline d'un point de vue juridique, parce que on peut pas mettre dans le même panier des terres agricoles dont le principe même terre agricole, c'est qu'elle est le moins artificialisée possible et qu'elle repose le plus sur la structure, on va dire, pérenne du sol, et une artificialisation définitive du lieu. Parce que quand on crée une retenue d'eau, donc une méga-bassine, pour un volume de 350 000 m3, ce qui fait la moitié de Sainte-Soline, par comparaison, là, il n'y a pas de retour possible. Donc, il n'y aura jamais de la terre agricole à cet endroit-là. Et c'est acté. Donc, dire qu'ils font une compensation, une compensation des nouveaux hectares qu'ils s'approprient en créant une méga-bassine, déjà, c'est faux, c'est pas une compensation et c'est pas une création de terres agricoles. De plus, c'est une artificialisation qui serait définitive. En plus, c'est fait absolument pas en concertation avec l'ensemble de l'interprofession agricole et c'est fait de manière assez opaque. Et dernièrement, c'est une captation de l'eau qui se fait sur les réseaux profonds et structurants du territoire. Donc, c'est un bien commun qui se fait, qui est en jeu, en fait. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux qui sont des enjeux à la fois locaux, mais aussi des enjeux juridiques beaucoup plus importants, parce que la méthode qu'il y a là de faire passer la pilule en fait en disant qu'une bassine serait une compensation de destruction de terres agricoles, d'un point de vue juridique, c'est extrêmement dangereux. Parce que si c'est accepté, et ce ne serait pas vraiment accepté en fait, mais ce serait plus, ça passerait en douce, ça pourrait servir à faire jurisprudence pour d'autres personnes plus tard qui voudraient s'installer et faire des compensations du même style.
Si on en revient aux 77 hectares, que deviendrait-il concrètement?
Eh ben, concrètement, il y aurait une partie qui serait en projet photovoltaïque, donc ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, qui consiste à mettre des panneaux solaires sur des terres agricoles. Alors des panneaux solaires, c'est très bien à mettre sur tous les endroits qui sont déjà artificialisés, mais il ne faut pas artificialiser des endroits pour mettre des panneaux solaires, ça c'est complètement contre-productif. Il y a aussi, et en plus, on sait très bien qu'on a beaucoup de précédents dans la région, notamment avec le scandale des serres photovoltaïques à Bourgneuf, en Mauges. Il y a énormément d'escroqueries et de montages juridiques qui sont faits pour toucher des subventions qui derrière ne voient jamais le jour. Et après, en fait, il y aurait des terres qui seraient tout simplement mais laissées non exploitées, laissées en jachère, pas valorisé par l'agriculture, impropre à l'agriculture pour plupart, et d'autres qui serviraient à ce projet de rétention, de captage des eaux. Donc il y aurait de nouvelles terres agricoles qui seraient utilisées par la carrière, donc une paire de terres agricoles, et les anciennes terres ne sont absolument pas remises en état ni réutilisables, mais elles sont, pour ainsi dire, laisser dans l'espoir que peut-être dans 10 ans il faudrait ça on pourra les réutiliser, mais en fait si on veut restructurer de la terre agricole, il faut qu'il y ait des choses qui poussent dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait replanter, un bocage, enfin ce genre de choses. Et c'est pas du tout une carrière de sable qui va s'occuper de ça. Ça ne les intéresse absolument pas. Donc concrètement, c'est vraiment, on est dans l'extractivisme pur. On creuse un endroit, quand on a fini, on creuse un autre, et on fait ça comme si on était dans un espace sans fin, alors que c'est pas le cas. On est dans un espace qui est sous tension, parce que c'est un espace qui est déjà en restriction d'eau pour les agriculteurs et les usagers, citoyens et citoyennes, tous les étés depuis des années. Donc on est dans un espace fragile, où des études d'impact ont été réalisées, et elles sont toutes alarmistes sur la situation. Et on a d'une société privée chevillée avec le syndicat des irrigants locaux. Et donc là, on pourra rentrer dans les détails des personnes qui portent le projet, qui passent outre tous les principes de transparence, de concertation, de précaution. Et puis je ne parle même pas ensuite de principes d'écologie, d'agronomie ou de bon sens, quoi.
Vous dénoncez une rupture d'équité. Concrètement, comment ce projet de retenue d'eau aux Alleux pourra-t-il favoriser une poignée d'exploitants au détriment de la paysannerie locale ?
Alors concrètement, la méga bassine, elle est portée par peu de personnes, notamment par un agriculteur du nom de Thierry Chailloux, qui était personne influente au syndicat des irrigants local, c'est quelqu'un qui est dans une agriculture. Il fait différentes productions, il fait de la production, on va dire, nourricière par ailleurs avec des échalotes par exemple, mais plutôt en production, on va dire, vente de gros.
Basé à Charcé, si je dis pas de bêtises, non ?
Voilà. Ouais. Et ensuite, beaucoup de production de maïs semences sous contrat avec des semenciers internationaux. Alors, il faut savoir que lui. Je ne vais pas inventer les choses. Je tiens de sa bouche, via ma conjointe qui a eu de bons échanges avec lui il y a 3 ans, dans différents cadres de l'eau. Lui, en fait, qu'il produise ou qu'il ne produise pas, ça ne change rien son revenu, parce que s'il rate sa production de maïs semences, il est payé par l'assurance du groupe pour lequel il travaille. Donc, ça reste quelque chose de stratégique pour eux, parce que la production de maïs semences n'est pas quelque chose qui vient répondre aux besoins de la population locale. C'est un outil géostratégique extrêmement puissant pour l'agriculture française, d'autant plus dans le contexte actuel. Et c'est un réseau d'influence extrêmement fort. On est vraiment dans ces enjeux-là, en fait. C'est-à-dire que produire de la semence de maïs à grande échelle, avec les méthodes de... de l'agro-industrie et des groupes Terena, Limagrain, Technicène, etc., etc., ce n'est pas du tout une question d'autonomie alimentaire, c'est une question d'influence géopolitique. Il faut être clair, hein, c'est dans le Maine-et-Loire n'est pas nourri par, grâce aux semenciers qui prospèrent au Maine-et-Loire. L'autonomie alimentaire, elle se fait par la production locale, par les éleveurs, par les maraîchers, par les paysans boulangers, par ce genre de choses, mais elle n'est clairement pas faite par la production de maïs-semences. La production de maïs-semences, c'est une production stratégique d'influence internationale et d'exportation. Et ça permet de nourrir, et ensuite, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Donc, il y a un enjeu pour eux de maintenir ça coûte que coûte et de sécuriser cette production aux dépens des autres. Parce que il y a deux maraîchers sur la commune des Alleux, ces deux maraîchers-là ne profiteraient pas de l'installation d'une bassine. Il y en a un d'entre eux qui, en plus, est dans un problème juridique où il n'a plus le droit de pompe, d'utiliser son forage parce qu'il serait situé trop près de l'Aubance et de nappes superficielles. Et cette personne-là, en fait, est dans un problème d'irrigation et la bassine ne vient absolument pas résoudre son problème à lui d'irrigation. Et il n'a jamais été concerté dans le projet. Même chose pour un autre maraîcher aux Alleux qui ne profiterait absolument pas de ça. Et tout est fait dans l'eau, et tout est fait dans le dos. Il y a une opacité totale. En janvier 2023, avec ma conjointe, on était allé au vœu de la mairie pour discuter avec les élus sur ces questions d'eau et d'accessibilité. Le maire sortant des Alleux, qui ne se représente pas, m'avait dit texto, ne vous en faites pas pour vos problèmes d'eau, on va faire une bassine aux Alleux, mais n'en parlez pas autour de vous, il ne veut pas que les zadistes arrivent. Bon, il fallait pas dire ça à les gens membres de la Confédération paysanne. Bon, mais après, je pense que c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir pour lire ce qui se passe autour d'eux. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a une volonté de dissimuler les choses. Il y a des conflits d'intérêts qui sont énormes parce que le fils de Monsieur Chailloux est sur une liste. Sur l'une des listes électorales de la majorité qui fait une scission. Donc, en fait, M. Chailloux a par ailleurs à côté de ça des ambitions politiques locales. Donc, on n'est pas du tout dans un problème agricole ni alimentaire, en fait, avec cette bassine. On est dans un problème de notables locaux, d'influence, de contournement juridique. Tout est fait dans le dos des citoyens qui ne sont au courant de rien. Il a fallu quand même que ce soit un syndicat agricole qui vienne faire un flying à un barrage filtrant pour que une personne, bah, par exemple, le patron du bar local dans lequel apparemment déjeune le patron de la carrière pratiquement une fois par semaine, était estomaqué parce qu'il a dit, ah bah, il vient manger là tout le temps et on est au courant de rien de ce qui se passe et tout est fait dans notre dos, en fait. Donc c'est ça en fait l'enjeu, c'est-à-dire que ce projet est fait par une poignée de personnes au profit d'une petite poignée de personnes. Il a un impact pour tous les habitants du coin et il ne profiterait même pas ça ne servirait même pas à nourrir ces habitants-là au final. C'est bien ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est assez exaspérant dans l'espèce de rhétorique qu'il y a de « mais on fait ça pour l'autonomie alimentaire, pour nourrir les gens, vous rendez pas compte », ce n'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est pas la production de maïs-semences qui met de la nourriture dans l'assiette des habitants des Alleux et de Brissac. C'est complètement faux.
Alors, nous sommes en pleine période électorale pour les municipales. Est-ce que les différentes listes, si vous avez pu les consulter, ont ouvert le débat sur ce projet ou ce dernier a-t-il plutôt été mis de côté ?
Il y a trois listes sur Brissac-Loire-Aubance. Il y a deux listes qui sont en fait la majorité qui a été élue se sépare en deux. Il y a une liste autour de Mathieu Roussel, une autre truc de Patrice Bazin. Ce sont deux listes, on va dire, de centre-droit. Et il y a une liste d'opposition plutôt écologiste. Aucune de ces listes n'avait mis la bassine au milieu de tout ça parce que on va dire que la liste de Patrice Bazin n'a pas grand intérêt à parler de ça, à part parce qu'ils savent que c'est un sujet explosif et qu'ils n'ont aucun intérêt à se positionner dessus et qu'ils ont tout intérêt à rien faire. La liste de Mathieu Roussel a en son sein une personne sur la liste, donc le fils de M. Chaillou, qui est un agriculteur qui porte le projet de bassine. Donc ils sont quand même un peu pris à partie. Et la dernière liste, la liste écologiste, en fait, n'en avait pas vraiment eu vent et ne connaissait pas vraiment le sujet. Alors, on a rencontré lors du barrage filtrant jeudi dernier, M. Roussel et M. Florence sont venus. Et à la fin de l'échange, la liste de M. Roussel dit bah, il faut nous. En gros, nous, on va essayer de voir ce qui fait consensus et on va s'aligner là-dessus. Et la liste de M. Florence s'est positionnée en disant nous sommes contre ce projet de bassine et nous aimerions que les deux autres listes se positionnent clairement sur le sujet. Donc, il y a eu ça, au moins notre sortie a permis à ces gens de se positionner un peu plus. Et en plus, je sais qu'au sein de leur liste, il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux d'études et d'impact environnementaux, donc ils sont assez sensibilisés sur ces questions. Mais pour le reste, au niveau des programmes, je les ai devant moi, c'est édifiant quand même, hein, au niveau de l'agriculture, il n'y a rien, en fait. Sur la liste principale de M. Bazin, valoriser l'agriculture et la viticulture locale, voilà tout, c'est tout ce qu'il y a. Oui, enfin, ça, on peut faire ce qu'on veut dire. Et l'autre liste, on a voilà, valoriser les producteurs et l'alimentation locale dans la restauration scolaire, superbe. Bon, oui, bon bah oui, valoriser encore. Aider la compréhension entre agriculteurs et habitants. Bon. Préserver nos espaces, nos chemins. Préservation d'espace, c'est quand même des choses. Voilà, on a rien de vraiment technique sur l'agriculture. On parle pas du tout de revenus agricoles, on parle pas des problématiques d'eau, on parle pas des problématiques de production. Enfin, voilà, c'est quand même assez déconnecté des réalités agricoles. Et sur la dernière liste, qu'est-ce qu'on a sur les listes écologiques, ils n'avaient pas mis grand-chose non plus d'ailleurs. Ils ont mis beaucoup de choses sur les mobilités douces, sur l'environnement, protéger les zones humides, replanter les haies, restaurer les rivières, etc. etc., etc. Oui, bon, très bien, mais concrètement, l'agriculture était complètement absente du débat électoral, en fait. Ce qui est quand même un peu un comble au regard de sa place structurante dans la commune.
Oui, et puis de sa place aussi dans le débat public de manière générale actuellement.
Ah bah oui, il y a un éléphant dans le couloir que tout le monde a pris soin de contourner. C'est ça qui s'est passé réellement, c'est que personne ne veut d'un débat de fond sur l'agriculture en Maine-et-Loire. C'est vraiment un sujet qui clive trop.
Alors, je suis obligé de poser la question. Le barrage filtrant, il a eu lieu 2 jours après le blocage de la 87 par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Est-ce que c'était calculé ?
C'était un hasard du calendrier, pour le coup. D'accord. Parce que leur action a été prévue avant, en février, mais a été bloquée à cause des inondations. Donc, elle a été décalée. Et nous, en fait, on avait prévu cette action vraiment à cette date-là. Mais en fait, c'est un hasard du calendrier, bon, qui a mis effectivement en avant qui a bien montré des différences d'approche là-dessus. De toute façon, on l'a bien vu également l'an passé avec les élections professionnelles à la Chambre d'agriculture, où d'ailleurs, rappelons que la FNSEA a quand même perdu beaucoup de sièges ici au profit de la Confédération paysanne, ce qui montre bien quand même un changement d'état d'esprit et de conscience. On est quand même dans une situation où ce qui a été proposé par les chiffres proposés par la FNSEA lors de sa mobilisation de mardi, c'est de la démagogie totale. Donner le chiffre qu'il suffirait de pomper l'eau de la Loire en crue pendant 3 heures pour assurer les besoins d'eau du Maine-et-Loire pendant 1 an, mais c'est d'une absurdité totale. Enfin, ce sont des choses qui sont irréalisables. J'aimerais beaucoup voir la tête de la pompe qui voudrait mettre après qu'elle ait avalé 3 arbres. Parce que un fleuve en crue, ce n'est pas exactement de l'eau exploitable. Hein. C'est, enfin, bon, bref, tout d'un point de vue technique est complètement aberrant. Ce sont juste des effets, d'annonce extrêmement simplificateurs qui sont là pour faire, pour cliver et puis pour ne pas aborder les débats de fond sur comment fonctionne l'eau, qu'est-ce que l'hydrologie, qu'est-ce qu'une agriculture, on va dire, consciente de ses problèmes et qui s'autorise à irriguer, mais en faisant ça intelligemment. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. De toute façon, eux proposent un modèle... Enfin, voilà, c'est un modèle unique, en fait. Le modèle de la FNSEA, c'est le modèle porté par leur président depuis des années. C'est une agriculture uniquement extractive qui sert à faire de la méthanisation, des biocarburants, qui sert à faire de l'exportation extrêmement subventionnée par l'État français, par la PAC, etc., qui fonctionne à perte en réalité. Donc en fait, il faut une subvention. En fait, comme il faut une aide publique de plus. Ils demandent de faire sauter la juridiction et d'avoir les coudées franches pour pouvoir pomper l'eau des contribuables. Enfin, c'est bon, vous avez déjà l'argent des contribuables depuis des années. Vous n'êtes pas rémunéré sur la qualité de votre travail et sur vos performances et sur votre production. Et vous êtes payé par une rente publique avec de l'argent public tous les ans. Et là, vous voulez prendre en plus l'eau qui est le bien commun public numéro un. Enfin, c'est... On est vraiment dans l'extorsion, quoi. C'est ridicule comme attitude. Et en plus, ça ne permettra pas, tout le monde le sait, de maintenir ce modèle de monoculture irriguée avec des enrouleurs encore des années. Ce n'est pas possible. On sait tous les modèles climatiques nous montrent bien que d'ici 5, 10, 15 ans, ça sera encore plus dur qu'aujourd'hui et ça ne marchera pas. Donc... ça, c'est assez lamentable.
Si on relie cela aux mégabassines, nous sommes devant une solution du passé, selon vous ?
Oui. En fait, il y a un consensus scientifique maintenant, quand même, sur... par exemple, sur la... Pour prendre un exemple tout à fait local, sur la commune de Brissac, il y a des méandres qui ont été recréés du côté de la station d'épuration. Ils ont recréé les méandres de l'Aubance. C'est un très gros chantier. Mais ça, ce sont des actions extrêmement importantes. Ralentir le débit des cours d'eau en recréant des méandres et en recréant des zones humides, on sait que ça fonctionne. On sait aussi que la replantation de haies, elle fonctionne. On sait également que les couverts végétaux, ça fonctionne. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont beaucoup moins coûteuses qu'une méga-bassine à mettre en place, beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus intéressant pour les agriculteurs parce que ça les met dans des positions où ils deviennent vraiment acteurs et ils ne sont pas à attendre des subventions publiques, des aides publiques et autres. Et en plus, c'est quand même c'est un cercle, c'est une tentative de remettre en route un cercle vertueux. Donc on en a des outils, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Donc on voit bien qu'on a une commune qui d'un côté est capable de recréer des méandres pour restructurer, on va dire, les sols à des endroits où ils étaient dégradés, c'est très bien, mais à côté de ça, on ne peut pas artificialiser des hectares pour faire du maïs semence. Enfin, ça deviendrait complètement du greenwashing de se retrouver dans cette situation-là. Donc, en fait, des solutions techniques diverses et variées, il y en a plein. Mais la méga bassine n'est pas une solution technique. C'est un C'est beaucoup plus une vision politique des choses, en fait. Si les mégabassines sont autant soutenues par les syndicats majoritaires, donc la FNSEA, c'est parce que elle place les agriculteurs au-dessus du droit et au-dessus des autres citoyens sur la question de l'eau. Aujourd'hui, concrètement, l'eau en France, dans les campagnes, elle n'est pas gérée par les pouvoirs publics, elle est gérée par les syndicats des irrigants et par les plus gros céréaliers. C'est complètement injuste, en fait. Mais ils veulent, comment dire, ils veulent asseoir cette situation qui est menacée.
Et ça, donc, vous vous dressez contre, puisque vous organisez une manifestation le 11 avril prochain. Qu'avez-vous prévu?
Nous, ce qu'on aimerait, c'est. Alors, il y aura une manifestation qui sera du coup à Brissac, qui aura lieu après les élections. Donc, Brissac est le chef-lieu de la communauté de communes, puis le plus grand village de la communauté de communes Brissac-le-Robens. On aimerait que ce soit un moment où les discussions qui ont été entamées avec les différents élus puissent continuer, où les gens puissent venir s'informer réellement. On aimerait également que ce soit une mobilisation qui, dans la continuité des mobilisations qu'il y a eu les années précédentes, notamment autour de la ferme de Dénée ou des serres à Bourgneuf, qui continue à montrer qu'il y a une agriculture paysanne dans le Maine-et-Loire qui est en place, qui est solidaire, qui est efficace, qui agit de manière transparente avec les citoyens, habitants, habitantes. Et on aimerait que ce soit, voilà, on aimerait que ce soit un moment où les choses sont évoqué de manière transparente, où les gens viennent expliquer réellement ce que c'est, où on sort où on sort comme vous disiez, du sensationnalisme et des annonces vraiment clivantes et fausses que peuvent faire la FNSEA sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., etc. Et on aimerait aussi que ce soit l'occasion, peut-être, pour les porteurs du projet de la bassine, de venir expliquer ce qu'ils sont concrètement en train de faire. Parce que ça fait plus de 3 ans qu'ils mènent ça dans le dos de tout le monde, que le sujet est complètement absent du débat public, alors que c'est un sujet public. Donc, ce serait peut-être l'occasion pour eux aussi de venir expliquer pourquoi ils ont dissimulé ça pendant des années. Enfin, pourquoi est-ce que monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Merci pour ton désaveu, Thierry. Désaveu, je retrouve son nom. Monsieur Galard, voilà. Peut-être que ce sera l'occasion pour monsieur Galard, maintenant qu'il sera sorti de ses fonctions, de venir expliquer pourquoi il y a 3 ans, il expliquait à moi et à ma compagne qu'il ne fallait pas parler du sujet. Bon, ce serait peut-être bien que lui aussi vienne. Enfin, en fait, voilà, il y a tous ces aspects écologiques, il y a les aspects économiques, il y a les aspects politiques locaux, où là, on n'a pas envie. Enfin, tout le problème est qu'on n'a pas envie de rentrer non plus dans des polémiques individuelles. À la Confédération paysanne, on n'est pas là, nous, pour courir les mairies. Hein, avant tout des agriculteurs et des agricultrices qui ont besoin de se retrouver et d'avoir de la solidarité pour affronter des problèmes techniques et politiques qui sont parfois des obstacles dans nos productions et nos installations. Mais on a envie d'alerter aussi quand même sur comme je le disais dès le début, sur le caractère extrêmement au-delà des positions, on va dire, de principe des uns et des autres, quand même, il faut quand même informer sur le caractère extrêmement borderline d'un point de vue juridique du projet et de la manière dont il est monté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je ne suis pas certain du tout que si ça passait devant une commission d'expertise, comme ça a été, et comme la plupart des projets de bassines sont passés, je ne suis pas du tout certain que le projet serait accepté. Parce que en l'état, il y a quand même beaucoup de choses très questionnables.
Merci beaucoup Thibaut Voyard d'avoir accepté de répondre à nos questions, on rappelle un membre de la Confédération Paysanne 49 qui organise, pour faire écho au barrage filtrant du 5 mars dernier, une mobilisation contre le projet de méga-bassine aux Alleux. Merci encore.